En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Excellente journée sur IDFM Radio, sur le 98 FM, sur idfm98.fr pour le site internet et l'appli IDFM Radio. Vous écoutez l'émission Tous les droits, l'émission qui répond à toutes vos questions d'ordre juridique. Selon le célèbre adage, nul n'est censé ignorer la loi, mais force est de constater que les lois changent régulièrement, se complexifient et que chaque cas est unique. Alors pour vous aider à y voir plus clair, je recevrai chaque mois des avocats du barreau du Val d'Oise qui répondront à toutes vos questions, chacun dans leur domaine d'intervention respectif. Aujourd'hui, nous plongeons dans un univers aussi concret que complexe, le droit immobilier. Que vous soyez propriétaire, locataire, copropriétaire ou même investisseur, vous êtes tous concernés par ces questions techniques, mais essentielles. Nous parlerons ensemble aujourd'hui de droit locatif, droit de la copropriété, de saisie immobilière, bref, de toutes ces situations où le droit rencontre le quotidien de la pierre et du logement. Pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir trois avocates du barreau du Val d'Oise qui nous aideront à décrypter les enjeux, les bonnes pratiques et les pièges à éviter. Bonjour Maître Élodie Fortin-Leton.
Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation.
Merci à vous surtout d'avoir accepté cette invitation. Vous avez intégré le barreau du Val d'Oise en janvier 2019.
Oui.
Votre cabinet est situé à Enghien-les-Bains. Donc là, vous êtes sur votre domaine de prédilection.
Exactement.
Voilà, vous êtes une voisine d'IDFM Radio.
Tout à fait.
Vous intervenez en droit de l'immobilier et en procédure civile d'exécution. Et vous répondrez aux questions des auditeurs en droit locatif notamment. Bonjour Maître Nelly Lecky.
Oui, bonjour.
J'ai bien prononcé?
Tout à fait.
Ah, cool. Vous avez créé votre cabinet en 2015 à Goussainville.
C'est ça.
Vous exercez en droit de l'immobilier, mais vous avez un cabinet généraliste offert de ma part.
C'est ça, c'est exactement ça.
Et vous êtes venue avec votre associée, Maître Jennifer Elkabas.
Bonjour.
Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir.
Pareillement.
Vous êtes donc associée avec notre consoeur Nelly Lecky. Vous exercez en droit de la famille, en droit pénal, en droit des affaires et en droit immobilier.
C'est ça.
Bienvenue à toutes les trois. Merci d'être mes invités sur IDFM Radio pour ce nouveau numéro de Tous les droits. C'est une émission, bien sûr, à retrouver en podcast sur le site idfm98.fr ou sur notre appli. Alors tout de suite, je me tourne vers Maître Élodie Fortin-Leton. Je commence toujours cette émission par un peu votre parcours. Comment vous êtes devenue avocate? Pourquoi vous avez voulu exercer ce magnifique mais très difficile métier? Et comment vous exercez aujourd'hui?
Alors moi, l'avocature, ça n'était pas une vocation initiale, puisque j'ai fait un master 2 contentieux judiciaire à l'université de Rennes. Ensuite, je voulais être huissier de justice, puisqu'à l'époque, c'était huissier de justice, donc j'étais claire aux procédures. Ensuite, je suis partie en entreprise pour être juriste en entreprise, notamment en droit immobilier. Mon mari a été muté dans le Nord. J'en ai profité pour passer le CRFP1 et de fil en aiguille, je suis devenue avocate comme ça. Et comme mon mari a à nouveau été muté, on est revenu s'installer ici et j'ai pu officier au sein de ce barreau qui est un barreau très convivial, très confraternel et j'en suis très heureuse.
Et donc vous avez prêté serment quand alors
En janvier 2019, le 11 janvier 2019 précisément.
D'accord. Et donc, vous étiez collaboratrice au sein de cabinet sur le barreau, c'est ça?
C'est ça, exactement. J'ai officié en qualité de collaboratrice chez Maître Adani, ensuite chez PMH et Associés. Je suis revenue chez Maître Adani et maintenant, actuellement, je suis chez Maître Lounis Clémache.
Donc, en droit immobilier, toujours?
Oui, principalement.
C'est votre domaine de prédilection?
Oui, j'ai une appétence particulière pour le droit immobilier, puisque quand j'étais claire aux procédures dans une étude d'huissier, j'avais la partie immobilière, donc tout ce qui était copropriété, locatif, saisie immobilière. Donc j'ai toujours eu, c'est une petite, comment est-ce que je pourrais libeller ça, une peut-être prédisposition pour le droit immobilier, puisqu'en même temps j'ai fait un master en droit notarial.
Ah oui, d'accord, effectivement. Donc c'est très ciblé.
C'est une thématique récurrente, le droit immobilier. C'est quelque chose que je trouve très intéressant. En fait, c'est technique, ça reste humain, et le mélange des deux fait qu'au quotidien on ne s'ennuie pas.
D'accord, oui, c'est un bon argument pour pratiquer effectivement cette matière. Et juste une dernière question. Donc cette matière que vous pratiquez, donc vous avez été formé à cette matière-là et vous continuez à vous former régulièrement, j'imagine, parce que c'est un
c'est
droit
évolutif.
Qui bouge beaucoup.
C'est un droit qui bouge beaucoup. Il faut à chaque fois, en effet, se remettre à niveau, parce que forcément l'évolution législative est telle que on peut pas s'asseoir sur nos acquis, il faut tout le temps évoluer en même temps que la législation évolue. Et au fur et à mesure, on acquiert aussi de l'expérience, puisque forcément, les décisions jurisprudentielles avec les juridictions du Val d'Oise sont évolutives aussi. Donc forcément, on est amené à évoluer en même temps que la matière.
Oui, je le rappelle alors au micro d'IDFM Radio et quand j'ai mes invités, que les avocats ont une obligation de formation continue, donc on doit se former régulièrement, même dans les matières qu'on pratique. Et j'invite régulièrement les auditeurs, auditrices qui cherchent des avocats à se renseigner sur les domaines dans lesquels les avocats interviennent, parce que on ne fait pas tous de tout. Et certains sont spécialisés, d'autres non. Donc vous, votre activité dominante, donc c'est droit immobilier, droit civil, les procédures d'exécution.
C'est ça, tout à fait.
Et les procédures d'exécution, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est pour les auditeurs ?
Alors, c'est lié justement à mon passé de clerc aux procédures, donc ça va être vraiment un suivi dans tout ce qui est procédure civile d'exécution. Quand vous avez un titre exécutoire, que vous mandatez un commissaire de justice pour pouvoir recouvrer ou mettre en œuvre la décision judiciaire qui a été rendue, moi je vais avoir un accompagnement, un œil extérieur qui va être différent, puisque forcément je connais la manière dont on procède pour les saisies attributions, les saisies des rémunérations, les saisies ventes mobilières ou immobilières. Donc forcément, l'œil que j'ai est un petit peu plus aguerri à ce type de procédure. Donc quand il y a une contestation à officier devant le juge de l'exécution, je peux intervenir.
Alors ça, c'est important de le préciser, parce que des fois, on a des belles décisions, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on en fait. Et puis les clients, ils sont là, mais je comprends pas, j'ai gagné, pourquoi on n'arrive pas à exécuter ? Donc on a des commissaires de justice, anciens huissiers de justice, mais donc vous pouvez également accompagner les clients sur ce type
c'est
de...
C'est ça, définir l'acte, ou tout du moins la procédure, la mesure d'exécution forcée, qui sera la plus opportune pour essayer d'aller recouvrer l'argent qui est dû.
Non, merci pour toutes ces précisions, un parcours encore très riche. Merci beaucoup. Alors, maître Jennifer Elkabbas, est-ce que vous étiez prédestinée à être avocate? Est-ce que vous vouliez être avocate?
Oui, j'ai toujours eu envie d'être avocate, mais j'avais un gros problème de timidité, donc c'est pas la voie que j'ai prise tout de suite. J'ai fait un bac scientifique, une première année de mathématiques appliquées aux sciences sociales, et après je me suis vite rendu compte que non. Donc j'ai réintégré la fac de droit, j'ai fait une maîtrise droit international et européen, un troisième cycle en pratique des droits de l'homme, parce que donc pas avocat, on va faire une ONG, quelque chose comme ça. Et puis mon mari m'a un peu poussée en me disant « t'as pas fait tout ça pour rien ». Donc j'ai passé le concours, l'école d'avocat, et puis j'ai prêté serment en novembre 2006, donc ça commence un peu à dater là.
C'était hier.
Oui, voilà, c'est ça, c'était hier.
D'accord, et donc alors vous avez prêté serment et après vous avez été collaboratrice.
Collaboratrice au cabinet de Maître Le Foulgoc pendant à peu près 8 ans. Peut-être un petit peu plus, jusqu'en 2015. Après, je me suis mis à mon compte jusqu'à ce que je rencontre ma magnifique associée qui est avec moi aujourd'hui et qu'on décide effectivement en 2018 de s'associer. Et on exerce aujourd'hui sur Goussainville.
Sur Goussainville. Et donc, votre cabinet, j'expliquais que c'était un cabinet généraliste. Qu'est-ce que vous faites comme matière
Alors, on fait beaucoup de droit de la famille. Moi, je fais aussi pas mal de droit du travail et de l'immobilier, effectivement.
Très bien. Et donc, vous vous êtes retrouvées toutes les deux parce que vous aviez partagé d'abord les mêmes locaux, ou comment s'est fait cette rencontre en 2015 ?
On s'est croisées dans les couloirs du palais, dans le cadre d'une audience d'assistance éducative. En fait, on parlait un peu des procédures juges pour enfants. Et puis, ça a matché comme ça. Et presque un an après, on était associés. Donc c'est une rencontre un peu ponctuelle, on dirait un coup de foot professionnel.
Ah, c'est bien ça, c'est beau. C'est agréable d'entendre ce genre de rencontre. Parce que les avocats, donc, ils exercent, je le rappelle régulièrement, de plusieurs manières. D'abord, souvent, on commence par être collaborateur pour un cabinet. Après, on s'installe tout seul ou avec d'autres confrères. Et puis après, soit on s'associe, soit chacun... Il y a plein de structures juridiques entre avocats et plein d'exercices différents. Mais là, en tout cas, vous avez fait le choix d'une association.
Bah, c'est vrai que je trouve que c'est un métier qui est quand même relativement difficile à exercer seul. C'est-à-dire que je pense qu'on a besoin de contradictions. Parfois, on a la tête dans le dossier, pas forcément le recul. Donc, du coup, et puis, c'est un métier qui reste quand même difficile. Et du coup, bah, le fait d'être au minimum deux, ça permet aussi de le rendre un peu plus léger par moment, quoi.
Oui, c'est important de le rappeler, ça aussi. La santé mentale des avocats, c'est parce ça. Que on n'est pas salarié. Donc, on n'est pas soumis au droit du travail. voilà. Donc, on se préoccupe pas trop de comment on va, hein, parce que c'est à nous de nous débrouiller tout seul.
C'est un peu ça. Mais...
Voilà, donc c'est important de le rappeler que c'est un métier très passionnant. Mais...
Toujours passionnant.
Voilà, on aime nos métiers, mais c'est un métier qui est exigeant et c'est vrai que voilà, c'est un métier difficile. Et vous avez raison de le rappeler, c'est souvent bien de partager son exercice avec d'autres confrères dans le même domaine ou pas d'ailleurs. Mais c'est une belle rencontre. Voilà.
Très belle.
Alors du coup... Votre associé, bonjour, rebonjour, Maître Lecky. Alors, comment vous êtes devenue avocate?
Alors, moi, c'était pas du tout une vocation. C'est-à-dire que pendant mes études de droit, alors j'étais attirée par les métiers du droit, mais en même temps, j'aimais un peu tout. J'aimais bien le métier de notaire que je trouvais sympathique, le métier de juriste d'entreprise que je trouvais très sympathique aussi. J'ai fait des stages en cabinet d'avocat. Mais j'avoue que l'ambiance dans les cabinets d'avocats m'a un peu effrayée. Et je me suis dit, mais non, j'ai peut-être pas envie de faire ça. Je n'ai pas envie d'être comme eux. C'est plutôt très froid, très austère. Et puis, donc, j'ai fait un Master 2 en droit des affaires. Puis, j'ai travaillé en tant que juriste d'entreprise d'abord dans un premier temps, donc dans un cabinet à Paris, dans lequel je faisais effectivement du droit des affaires. J'ai donc travaillé pendant 6-7 ans. Et après, la maturité aidant, j'ai fini par me dire, bah, finalement, j'ai quand même envie de me mettre à mon compte. La profession d'avocat, on peut la vivre différemment, puisque j'ai travaillé comme juriste d'entreprise, puis juriste en cabinet. Et du coup, ça m'a un peu réconciliée avec la profession d'avocat, parce que je suis tombée sur des confrères un peu différents de ceux que j'avais connus précédemment. Et ça m'a un peu reconnectée. À cette profession, à cette belle profession. Du coup, j'ai passé le parcours, je suis revenue au parcours classique, CRFPA, le CAPA, et j'ai ensuite travaillé comme collaboratrice dans un cabinet à Senlis, dans le cabinet de Barbara Vriac, avec lequel ça s'est très bien passé, j'ai acquis de l'expérience, j'en avais déjà, mais l'expérience pure de cabinet, j'ai pu exercer dans les matières comme le droit du travail dans lesquelles je n'exerçais pas auparavant, et ça a élargi un peu mon champ de compétences, et je me suis donc installée en 2015 à Goussainville. Puis, je me suis associée avec Mathilde Cavas en 2018.
Elles ont le sourire, Romy. Ça se voit pas, mais moi, je vous le dis, elles sourient. Elles ont l'air très complices. Ça fait plaisir de voir des associés qui sont contentes de travailler ensemble bien des années après. Donc, merci pour cette présentation de votre parcours. Et oui, donc maintenant, vous êtes avocate, associée. Donc, vous êtes aussi des chefs d'entreprise. Donc, vous faites votre métier, mais vous faites aussi de la compta, de la communication, de la gestion de vos locaux. Vous vous traitez avec toutes les administrations qui vous demandent toujours beaucoup de choses. Et beaucoup d'argent. Merci pour ces rappels. Je vous propose de marquer une première pause musicale avant que nous entamions les réponses aux questions de nos auditeurs. À très vite. So good.
Oh, you came as a surprise. You were right on time. Think you're all about me, but I'm all about you. Think you're all about me, but I'm all about you.
IDFM, 98FM.
Vous écoutez l'émission Tous les droits sur IDFM Radio. Notre émission du jour est consacrée au droit immobilier et j'ai la chance d'avoir dans cette jolie émission trois avocates du barreau du Val d'Oise, Maître Élodie Fortin-Leton. Nelly Lecky et Jennifer Elkabas. Nous débutons notre premier tour de questions avec Maître Élodie Fortin-Leton. Première question d'un auditeur. J'ai un locataire qui ne paye plus son loyer depuis plusieurs mois. Avant d'aller en justice, est-ce que je peux résilier le bail moi-même ou faut-il forcément passer par un juge ?
C'est une très bonne question à laquelle je vais répondre. La résiliation d'un bail d'habitation en cas d'impayé loyer ne peut pas en fait être décidée unilatéralement par le propriétaire sans intervention judiciaire. Il va falloir dans un premier temps vérifier si votre contrat de location comporte une clause résolutoire. Elle est standard dans la plupart des baux d'habitation que le logement soit loué nu ou soit loué meublé. Néanmoins, et même en présence d'une clause résolutoire dans le contrat de location, la procédure, elle impose le respect de certaines étapes légales. La première étape, elle va consister tout simplement à mandater un commissaire de justice pour que ce dernier procède à la délivrance d'un commandement de payer qui va viser ou pas la clause résolutoire. Et cet acte, il va laisser 2 mois au locataire indélicat pour apurer son arriéré locatif. Si à l'échéance des 2 mois, l'apurement de l'arriéré locatif n'est pas intervenu, dans ce cas-là, la résiliation du bail pourrait être envisagée en application de la clause résolutoire ou pour inexécution contractuelle grave, en l'espèce le non-paiement des loyers. Le propriétaire bailleur va donc être bien fondé à saisir le juge des contentieux de la protection du tribunal compétent, qui est le lieu de situation du bien, pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire ou solliciter la résiliation judiciaire du contrat de location avec les conséquences de droit qui s'y rattachent, c'est-à-dire l'expulsion ordonnée, la condamnation au paiement de l'arriéré locatif, la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, puisque le locataire devient occupant sans droit ni titre. Le juge, dans le cadre de sa saisine, va vérifier la régularité de la procédure, la réalité des manquements également invoqués à l'encontre du locataire, avant de prononcer la résiliation. En conclusion, la saisine du juge, elle est obligatoire pour faire constater la résiliation du bail d'habitation en cas d'impayé loyer, même si vous avez une clause résolutoire qui est insérée au contrat. Le propriétaire ne va donc pas pouvoir résilier le bail de sa propre initiative sans intervention judiciaire. Le propriétaire bailleur n'a donc pas le droit, de manière arbitraire, de procéder au changement des serrures, de couper l'électricité ou de menacer le locataire indélicat pour qu'il quitte le logement. En outre et à toute fin, la décision, une fois que vous avez obtenu la décision judiciaire, il faudra donc vous rapprocher d'un commissaire de justice pour que ce dernier procède à la signification de la décision, à la délivrance d'un commandement de quitter les lieux qui laissera un délai de 2 mois au locataire, enfin à l'occupant sans droit ni titre pour quitter volontairement les lieux. Si ce n'est pas le cas, à l'échéance de ces 2 mois, le commissaire de justice se rendra sur place, dressera un PV de tentative d'expulsion pour certifier que le logement est toujours occupé. Ce PV de tentative d'expulsion va servir à solliciter le concours de la force publique pour pouvoir ensuite expulser l'occupant sans droit ni titre. Il faut savoir également que l'expulsion ne peut pas intervenir quand vous avez la trêve hivernale. Et également, le commissaire de justice va mettre en place des mesures d'exécution forcée pour essayer de recouvrir l'arriéré locatif avec la mise en place de saisie-attribution, de saisie-rémunération et également de saisie vente mobilière, c'est-à-dire qu'on se rend au domicile, qu'on fait un inventaire des biens meubles qui composent le logement pour voir s'il y a un moyen de désintéresser tout du moins une partie de la créance en vendant les biens saisis. Donc la réponse au final est non. Malheureusement, non. Vous devez passer devant le JCP pour pouvoir obtenir une décision judiciaire.
On ne fait pas justice soi-même, quoi.
Quand exactement.
Quand on est propriétaire et qu'on n'a pas ses loyers. Et alors donc, est-ce que l'assistance d'un avocat est obligatoire pour ce type de procédure ?
Oui, j'ai de toute façon toujours tendance à préconiser le recours à un avocat, puisqu'il y a certains propriétaires bailleurs qui mandatent le commissaire de justice pour rédiger eux-mêmes l'assignation. Un avocat aura un œil différent sur le dossier, parce que forcément, il va pouvoir regarder au niveau du décompte si la créance qui est alléguée est bien régulière, s'il n'y a pas de difficulté. Il va vérifier également l'attestation de propriété. Il va vérifier que le formalisme a bien été respecté avec la dénonciation du commandement à la CAPEX, la notification à la préfecture de l'assignation. Donc oui, l'avocat, je vous le recommande très fortement pour vous assister dans le cadre d'une procédure d'expulsion.
Et donc, vous pouvez, vous, par exemple, assister des propriétaires sur toute la France. Il n'y a pas de compétences territoriales particulières.
Pas devant les juridictions de proximité, en effet, pour ce type de thématique.
Ouais, c'est important de le rappeler parce qu'il y a des matières où il faut avoir recours à un avocat dans le ressort du tribunal pour simplifier, voilà, dont relève le contentieux. Mais là, pour la matière locative, en tout cas pour ce type de contentieux, vous pouvez très bien aller défendre un propriétaire malheureux à Rennes.
À Beauvais,
voilà, à Beauvais. J'allais plus loin.
Proximité.
Mais, très bien, ok. Et alors, une autre question qui va nous permettre de rappeler, parce que je fais beaucoup de rappels dans cette émission, on peut avoir une protection juridique qu'on peut mobiliser pour ce type de contentieux ?
Oui, et c'est d'ailleurs, en effet, les protections juridiques, de plus en plus, ces protections juridiques, enfin, tout du moins, de particuliers souscrivent à des protections juridiques, ce qui permet, en effet, une prise en charge des honoraires de l'avocat suivant un barème. Alors, l'avocat choisi se conformera ou pas au barème, donc vous pouvez avoir un reliquat d'honoraires à avancer, en effet, par rapport à la mise en place de la procédure, mais c'est tout du moins une somme que vous n'avez pas à avancer, puisque c'est la protection juridique qui va prendre en charge une partie des honoraires de l'avocat.
Très bien, merci pour ce rappel et cette réponse extrêmement précise. Je vous propose cette fois d'adresser une question à Maître Nelly Lecky. Alors, une question concernant non plus un propriétaire malheureux, mais une question qui relève du droit de la copropriété. Dans ma copropriété, le syndic vient d'être reconduit sans que je sois certain qu'une assemblée générale ait bien voté. Comment vérifier la régularité de sa désignation ?
Alors, lorsque on est copropriétaire, il y a donc un règlement de copropriété, d'une part, et on a surtout la loi de 65, la loi du 10 juillet 65, qui vient régir les règles applicables en matière de copropriété. Les propriétaires, en général, se réunissent au minimum une fois par an dans le cadre d'une assemblée générale, laquelle va permettre de désigner un syndic s'il y en a un. On a souvent un conseil syndical. À certains endroits, on parle d'association syndicale libre. Et dans les immeubles, en général, on a plutôt un conseil syndical et on va mandater un syndic de copropriété pour assurer la gestion du bâtiment. Alors, je reçois en général, dans ces cas, un procès verbal d'assemblée générale. Donc, à la suite de l'assemblée générale, il y a un délai d'un mois pendant lequel on doit recevoir tous les comptes rendus. Un copropriétaire qui, lui, a un doute sur la reconduction d'un syndic doit pouvoir soit commencer par vérifier le dernier compte rendu de l'Assemblée générale, s'assurer que la mission du syndic a bien été reconduite, vérifier la durée pendant laquelle ce syndic avait été mandaté. En général, il est mandaté un an et c'est souvent renouvelable, mais rien n'empêche d'aller au-delà. Et donc, il conviendra de vérifier les modalités de vote, vérifier qu'on a eu vérifier le nombre de voix pour, le nombre de voix contre, des abstentions, et surtout s'assurer qu'on a obtenu la majorité absolue, parce que la loi de 65 prévoit une majorité absolue qui est prévue par l'article 25, et on peut également avoir une majorité relative si on n'a pas obtenu la majorité absolue. Donc, clairement, on demande en fait à vérifier que lors de l'Assemblée générale, le contrat de syndic, donc le mandat du syndic a été déterminé, que le contrat de syndic a été proposé aux copropriétaires lors de la tenue de l'Assemblée générale que ce vote a été inscrit à l'ordre du jour. Et donc, c'est comme ça qu'on peut avoir connaissance de la validité de l'existence du syndicat du syndic de copropriété.
Très bien. Et alors, juste pour rappel, il y a des délais hein, pour contester les procès-verbaux de l'Assemblée générale que vous avez rappelés.
Alors, on dispose effectivement d'un délai de 2 mois à compter de la notification du procès-verbal d'Assemblée générale. Donc, quand on le reçoit, le délai court et c'est un délai qui est plutôt rapide parce que 2 mois, ça passe vite. Et je ne vous dis même pas ce qui se passe lorsqu'on le reçoit en pleine période estivale. Et là, pour le coup, je parle en connaissance de cause. Parce que nous avons eu à traiter au cabinet d'un sujet, d'un dossier dans lequel le compte rendu avait été notifié au copropriétaire en juillet et le délai expirait 2 mois après. Donc ça a été très compliqué.
Alors, c'est que le décret d'application prévoit que le délai court à compter de la première présentation. Donc c'est la difficulté quand on est à l'étranger, qu'on le récupère en principe ou qu'on n'est pas là 15 jours après.
Oui, alors c'est des notifications, c'est par lettre recommandée AR, voilà.
C'est une notification obligatoirement par lettre recommandée avec accusé de réception pour pouvoir faire courir le délai. Donc ce délai court justement à compter de la fameuse notification.
D'accord. Alors c'est je le rappelle souvent, il y a des délais comme celui qu'on vient de rappeler, d'où la nécessité d'être quand même très attentif lorsqu'on reçoit des notifications de sa copro ou de manière générale de l'administration, parce qu'une fois que les délais sont expirés, on ne peut plus rien faire. Alors les gens des fois sont très frustrés par nos réponses, mais c'est une réalité.
En réalité, le conseil que je peux donner, c'est qu'une fois l'assemblée générale tenue, il faut surveiller sa boîte aux lettres, savoir que le facteur va passer dans le délai d'un mois, en général. Enfin, il a jusqu'à un mois, en fait, pour passer notifié.
Okay,
donc, attention, lorsqu'on ne retire pas ses recommandés, c'est toujours un peu compliqué de pouvoir agir en justice ultérieurement. Parce que certaines personnes ne retirent pas la recommandée et ça peut être préjudiciable. En général, on reçoit une grande enveloppe avec tout un tas de documents.
Oui.
Et là, on sait que c'est...
Ça, on sait qu'il y a un sujet qu'il y a un délai et qu'il faut qu'on soit très vigilant et qu'on prenne vite attache auprès d'un avocat si jamais on veut entamer une action ou en tout cas vérifier la régularité de la désignation du syndic dans ce cas-là, quoi.
Effectivement, il ne faut pas attendre hein, parce qu'il faut aussi imaginer que l'avocat, déjà le temps d'avoir un rendez-vous avec l'avocat et le temps que l'avocat puisse aussi lui préparer votre dossier, saisir le tribunal compétent et ainsi de suite, le délai de 2 mois est très très court. Donc il faut aller vite.
Oui, parce que les clients n'ont pas toujours le même rapport au temps que nous. Hein. C'est-à-dire que nous, des fois, on nous dit qu'on est trop lent, mais on gère. Nous, en fait, ce métier ne consiste qu'à gérer des priorités, en fait. Ce qui est très urgent, moins urgent, etc. Et c'est pas les mêmes timings pour les clients, ce qui est tout à fait normal, où ils attendent des réponses extrêmement rapides. Bon, après, quand le délai expire à quelques jours, effectivement, ce dossier devient prioritaire.
Et c'est d'autant que l'avocat ne peut pas saisir le tribunal directement tout seul. Donc, il aura recours à un commissaire de justice pour aller faire délivrer l'assignation. Et là encore, on a des délais. Bien souvent, on les saisit dans le cadre de l'urgence, en fait, dans ces circonstances-là.
C'est vrai. On mandate des commissaires.
En revanche, ça coûte un peu plus cher.
Oui, l'urgence coûte l'urgence, de l'argent.
Voilà.
Donc, globalement, c'est bien d'anticiper. Et d'ailleurs, je le rappelle aussi souvent dans cette émission, on vient voir aussi un avocat, soit quand on reçoit des assignations, soit quand on veut lancer des actions judiciaires, mais on peut aussi prendre rendez-vous dans le cadre d'un conseil ou faire un petit point avant qu'il y ait ou si on pense qu'il va y avoir un litige. Vous recevez régulièrement des clients qui veulent faire un point sur une situation, mais...
Tout à fait. On en reçoit qui viennent dans le cadre d'une consultation pure, hein, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas dans l'idée de faire une procédure, mais ils veulent d'abord en savoir plus avant de décider d'aller plus loin ou non. Et en général, on évalue avec eux le bien fondé de l'action, l'opportunité d'engager une telle action, parce qu'il n'y a pas que la voie judiciaire, c'est-à-dire que un copropriétaire qui est en désaccord avec des décisions prises par l'Assemblée générale, il peut très bien demander à l'Assemblée générale de rectifier le tir, c'est-à-dire qu'on peut régulariser dans le cadre d'une Assemblée générale ultérieure, sous réserve évidemment de mettre la question à l'ordre du jour, se réunir à nouveau en assemblée et puis voir comment on peut régler les choses. Bien souvent d'ailleurs, dans la pratique, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on a assigné et que l'affaire est en cours de procédure, il y a une assemblée générale qui se réunit et parfois les problématiques sont même réglées en amont quand on est dans le cas des copropriétés qui fonctionnent bien.
Alors voilà, vous faites bien de le rappeler. Parce que ça suppose quand même que tout ce petit monde s'entende plutôt bien. Parce que des fois, ces conflits-là, c'est aussi des conflits de voisinage, générationnels et autres. Oui, les copropriétés, c'est souvent des histoires d'humains.
Exactement.
Ouais, voilà, ce qui fait que ce métier est passionnant. Mais merci pour ce rappel. Donc, on peut aussi se dire que des fois, à l'amiable, et l'avocat aussi peut intervenir dans ce cadre-là pour favoriser le dialogue ou... rappeler les textes.
Tout à fait. D'ailleurs, je peux vous citer un exemple dans lequel, effectivement, on avait saisi en justice. L'avocat constitué a pris la tâche directement avec nous, donc nous qui avons engagé l'action, pour dire, bon, bah, est-ce qu'on peut se mettre autour d'une table et discuter, quitte à ce qu'on régularise dans le cadre d'une assemblée générale ultérieure. Donc, ça peut arriver également. Mais il a quand même fallu que la procédure soit engagée pour permettre... Cet arrangement à l'amiable.
Bon, merci en tout cas pour ces précisions. Et vous aviez un confrère de bonne composition, qui s'est dit un bon accord vaut mieux qu'un mauvais procès. Mais ça, ce sera l'objet d'autres discussions. Merci pour la qualité de votre réponse. Une nouvelle petite pause musicale avant de poursuivre cette émission consacrée au droit immobilier.
We'll get married in September in a small town by the sea. I'll be baking sugar roses for my true
Be so right.
quotidien sur IDFM Radio.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio à l'écoute de l'émission Tous les droits consacrée aujourd'hui aux droits immobiliers et nous poursuivons nos réponses aux questions des auditeurs avec Maître Nelly Lecky. Une nouvelle question pour vous. Bonjour. Là, c'est une question polie. J'ai reçu un commandement de payer aux fins de saisie immobilière sur ma maison. Concrètement, combien de temps ai-je avant que le bien soit vendu aux enchères ?
Alors, je crois qu'on va d'abord commencer par expliquer ce que c'est qu'un commandement de payer. Un commandement aux fins de saisie est donc l'acte qui est délivré par l'huissier qui vient vous dire que vous allez faire l'objet d'une saisie immobilière et donc votre bien va être rendu indisponible. Vous avez un délai dans ce commandement qui est en général de 8 jours, un délai d'ailleurs que vous ne pouvez pas respecter. Le commandement de payer fait courir le délai. Il fait courir un délai qui peut être relativement long en fonction des cas. Je vous dirais qu'en moyenne, entre la délivrance du commandement de payer et l'audience d'adjudication, donc la vente de votre bien aux enchères, on peut compter en moyenne un an. Mais tout ça est assez variable. Je vais juste reprendre des délais principaux, à savoir que lorsque le commandement de payer est délivré, donc le créancier poursuivant, en général c'est en fait l'avocat du créancier poursuivant qui va devoir publier le commandement de payer d'abord au service de publicité foncière dans un délai de 2 mois. Après ce délai de 2 mois, il va donc devoir assigner le débiteur à l'audience d'orientation, donc saisir le tribunal judiciaire, l'assigner donc devant ce tribunal, devant le juge de l'exécution, et il va pouvoir le faire dans un délai compris entre 2 mois et 4 mois, parce qu'en fait la loi prévoit que lorsque on assigne un débiteur à l'audience d'adjudication, il faut un délai minimal d'un mois ou maximal de 3 mois avant la date de l'audience. Donc, on a le délai de 2 mois pour publier le commandement. En général, on le publie au bout d'un mois. Donc, on a au moins un délai d'un mois. Ensuite, on prend une date d'audience et on sait qu'on ne peut pas assigner avant l'écoulement d'un délai. On a entre 1 mois et 3 mois pour pouvoir délivrer l'assignation à l'audience, pour l'audience d'orientation. Après, donc, à l'audience d'orientation, le débiteur peut tout à fait demander à avoir des délais, donc avoir notamment un délai pour pouvoir vendre son bien à l'amiable. Ce délai est de 4 mois. Il peut donc obtenir ce délai. Donc, on est déjà, on peut dire, si je prends la fourchette haute, je suis sur les 3 mois après le commandement. À compter de ces 3 mois, j'ai un délai de 4 mois qui s'ouvre, si le juge m'autorise à vendre mon bien à l'amiable, et encore c'est sans compter les dates de délibéré, puisque à partir de la date d'audience, on a aussi le délai du délibéré qui court, qui vient donc se rajouter au fameux délai de 4 mois, qui lui ne courra que après la réception, la notification du jugement. On se retrouve donc à peu près en moyenne avec un délai de entre 7 et 8 mois. Une fois ce délai expiré, soit on a réussi à vendre son bien à l'amiable, soit ce n'est pas le cas, ou alors on est peut-être sur la signature d'un compromis devant le notaire. On peut revenir voir le juge pour demander une prolongation, mais pour le coup avec des éléments probants et notamment des actes vraiment notariés. Enfin, on vient souvent avec un compromis, et pas simplement un mandat de vente. Et dans ce cas, le juge peut effectivement accorder un délai supplémentaire pour pouvoir parvenir à la vente amiable. Passé ce délai, soit la vente est intervenue, soit elle ne l'est pas, et à ce moment, il y aura une nouvelle audience à laquelle le juge va ordonner la mise en vente du bien aux enchères. Là encore, on a à peu près entre 1 et 2 mois de délibéré, et lorsque le juge va rendre la décision, il va ordonner la vente dans un délai compris entre 2 et 4 mois. Donc, quand on reçoit la décision dans laquelle on vous dit que le bien sera vendu aux enchères, la vente aux enchères ne pourra intervenir que dans un délai compris entre 2 et 4 mois. Vous voyez, donc on arrive facilement à un délai de 12 mois.
Voilà, d'accord. Je peux donner un délai moyen de 12 mois.
D'accord.
Après, les situations peuvent varier selon qu'on n'obtient pas le délai hein, de 4 mois pour parvenir à la vente amiable. Enfin, voilà, il faut compter en moyenne entre... Enfin, vraiment, le délai le plus court, à mon sens, pourrait être de 6 mois, si vraiment on n'a pas... dans le meilleur des cas. Mais en tout cas, on a en moyenne une année pour que... le bien soit vendu aux enchères.
Et est-ce que l'assistance d'un avocat est obligatoire quand on est débiteur ?
Alors, le code de procédure civile d'exécution vous dira que pour le débiteur, à l'audience de l'orientation, il peut tout à fait venir demander le délai tout seul. Mais ce n'est absolument pas conseillé parce que l'audience d'orientation est une audience importante. Une audience au terme de laquelle on peut demander beaucoup de choses. L'avocat va pouvoir déjà vérifier la régularité de la procédure. Il va pouvoir soulever des contestations. Il va même pouvoir demander parfois des réductions concernant les pénalités quand il s'agit d'un prêt bancaire. C'est déjà arrivé, nous l'avons fait, nous l'avons obtenu. Et ça se passe par des conclusions. Donc c'est avec un avocat obligatoire, il n'y a qu'avec l'avocat qu'on peut l'obtenir. La seule chose que le débiteur peut obtenir seul à l'audience d'orientation, c'est le fameux délai de 4 mois. Évidemment, sous présentation de justificatifs, et notamment des mandats de vente signés avec des agences immobilières et ainsi de suite. Mais la présence de l'avocat est fortement recommandée pour le coup, parce que c'est elle qui permettra au débiteur de pouvoir préserver réellement ses intérêts.
Oui, mais quand il s'agit de la vente, la saisie de la maison, je pense qu'on peut être assisté.
On ne peut pas faire l'économie.
Voilà. Oui, non, là, je pense que l'enjeu est quand même assez important. Merci pour la qualité de votre réponse. Je m'adresse de nouveau à Maître Élodie Fortin-Leton. Une nouvelle question pour vous concernant un appartement qui a été quitté. Voilà, j'ai quitté mon appartement il y a 3 mois. Mais mon propriétaire refuse encore de me rendre la caution sous prétexte qu'il y a eu trop d'humidité dans la salle de bain. Quels sont mes recours pour récupérer mon dépôt de garantie ?
Alors, le dépôt de garantie, c'est une somme qui est versée lors de la prise en possession des lieux par les locataires en garantie pour le propriétaire. En général, c'est 1 mois de loyer pour le logement nu et 2 mois de loyer pour un logement meublé. La règle, elle est la suivante. Le dépôt de garantie doit être restitué dans un délai d'1 mois dès lors que l'état des lieux d'entrée et de sortie sont conformes. Et le dépôt de garantie doit être restitué dans un délai de 2 mois s'il ressort de la comparaison entre l'état des lieux d'entrée et de sortie que des réparations locatives sont imputables aux locataires durant la période d'occupation du bien ou qu'un arriéré locatif n'a pas été régularisé consécutivement au départ du locataire. Par exemple, c'est typiquement le cas où un locataire passera le 15 juin et n'a pas réglé l'échéance du 1er juin au 15 juin. Dans ce cas-là, en effet, le propriétaire va retenir cet arriéré locatif sur le dépôt de garantie. Le dépôt de garantie, en fait, il doit être restitué au locataire dans un délai maximal de 2 mois à compter de la remise des clés, déduction faite, on a dit, des sommes restant dues au bailleur au titre de l'arriéré locatif ou des réparations locatives sous réserve, bien évidemment, qu'elles soient dûment justifiées. Le propriétaire va devoir préciser nominativement les sommes retenues, expliquer pourquoi ces postes-là sont retenus sur le dépôt de garantie et il doit démontrer que les dégradations ne relèvent pas de la vétusté ou de la force majeure. En cas de litige, il appartient en effet au bailleur de prouver la réalité et l'origine des dégradations qui sont invoquées. En l'absence d'état des lieux d'entrée et de sortie, le locataire est présumé avoir reçu le logement en bon état et doit le rendre tel quel, sauf preuve contraire. Si aucune preuve n'est rapportée par le bailleur quant à l'origine des dégradations, par exemple humidité ou moisissure qui serait liée à une suroccupation du bien ou un défaut d'aération du logement, la retenue du dépôt de garantie, elle n'est pas justifiée et le propriétaire doit restituer la totalité de la somme. Ainsi, dans notre cas d'espèce, 3 mois après le départ du locataire, le propriétaire ne peut refuser de restituer le dépôt de garantie en invoquant la présence d'humidité dans la salle de bain s'il ne rapporte pas la preuve que cette humidité résulte bien d'un manquement du locataire à ses obligations et non d'une cause extérieure ou d'un fait imputable à lui-même, c'est-à-dire l'absence d'installation de VMC, par exemple, dans la salle de bain. À défaut de justification précise et de preuve, la retenue, elle n'est pas légale et le locataire peut en demander la restitution intégrale. Concrètement, et après réception de l'état de compte liquidatif suite à votre départ des lieux, il vous convient d'adresser
au propriétaire bailleur une lettre recommandée circonstanciée au terme de laquelle vous expliquez les contestations formulées quant aux retenues opérées et vous l'invitez à revoir sa position sur ce point. Vous lui rappelez qu'à défaut, vous serez bien fondé à saisir la juridiction compétente pour obtenir la restitution du montant de votre dépôt de garantie, majoré des pénalités de retard. Ces pénalités de retard, c'est la somme égale à 10% du loyer mensuel hors charge pour chaque mois de retard commencé. Par contre, préalablement à cet instant judiciaire, il vous conviendra de saisir le conciliateur de justice ou la commission départementale de conciliation afin de tenter une conciliation amiable. Ces démarches, elles sont gratuites et elles peuvent même vous éviter les méandres d'une instance judiciaire avec les délais qui sont malheureusement assez conséquents. J'aurais d'ailleurs tendance à vous inviter à saisir la commission départementale de conciliation puisqu'elle est composée paritairement de représentants de bailleurs et de locataires et que leurs avis sont souvent suivi par le magistrat.
C'est un préalable obligatoire, ça, ou pas du tout ?
Alors, c'est pas un préalable obligatoire, mais j'ai tendance, en effet, à l'inviter fortement, puisque de toute façon, on est sur des sommes qui sont inférieures à 5 000 euros. Donc, il y a des conciliations obligatoires. Et souvent, en fait, ça permet au bailleur en tort de se rendre compte que la position qu'il a n'est pas cohérente et juridiquement fondée.
D'accord.
Donc, il y a une prise en considération. Et dans ce cas-là, il revoit sa position. Et souvent, on arrive à avoir une restitution du dépôt de garantie.
D'accord. Et ça, vous pouvez intervenir, vous, à ce stade, pour même rédiger éventuellement une mise en demeure ?
Alors oui, tout à fait. On peut faire, en effet, on peut intervenir pour la rédaction de la mise en demeure, ce qui est des fois mieux que des courriers envoyés avec ChatGPT, qui sont des fois un petit peu arbitrairement libellés. Donc, en effet, il y a une sécurité par rapport à ça. Après la saisine de du conciliateur ou de la commission départementale, les particuliers peuvent le faire eux-mêmes. C'est gratuit. Ils se présentent à la réunion. Voilà.
Mais c'est bien de le savoir et de le rappeler éventuellement. Mais vous avez raison de parler de ChatGPT parce qu'effectivement, sur ce type de lettres recommandées, on peut trouver des modèles sans difficulté. Mais vous avez raison de le rappeler, c'est pas le même impact avec un courrier en tête avocat. En général, c'est quand même plus dissuasif.
Ça a un effet comminatoire.
Oui, voilà.
Tout de suite, c'est un petit peu plus imposant et ça va permettre au bailleur d'avoir une réflexion un petit peu plus étayée quant à la révision de sa position sur la retenue locative opérée.
Voilà.
Parce qu'on cite de la jurisprudence en détail.
Voilà.
Donc c'est toujours mieux.
Oui, parce que ChatGPT, des fois, nous propose des décisions. Mais quand on les vérifie, on se rend compte que ça veut pas dire ce qu'il voulait en dire. Donc,
ou qu'elle n'existe pas.
Ou qu'elle n'existe pas.
C'est ça.
Voilà.
C'est ça.
Donc,
c'est ça.
D'où la nécessité, même si l'intelligence artificielle peut aider les avocats dans leur travail au quotidien. En tout cas, l'utilisation pour des besoins juridiques de l'intelligence, vous tout seul, c'est pas toujours adapté ni recommandé.
C'est ça.
On reste encore des avocats compétents et qui maîtrisent bien leur domaine.
Et consciencieux.
Et consciencieux, effectivement, avec une qualification et des courriers en tête qui sont dissuasifs. Voilà, ça fait toujours son petit effet, le courrier avocat. ChatGPT, pour l'instant, il n'a pas le diplôme d'avocat. Merci pour toutes ces précisions. Nous marquons une nouvelle pause musicale avant de retrouver Maître Jennifer Elkabbas pour l'émission « Tous les droits consacrés aux droits immobiliers ».
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM.
Vous écoutez l'émission Tous les droits sur IDFM Radio. Nous poursuivons cette émission consacrée au droit immobilier avec Jennifer Elkabas. Nous avons reçu une nouvelle question pour vous. Les charges de copropriété augmentent chaque année et j'ai l'impression qu'elles ne sont pas justifiées. Comment puis-je demander à consulter les comptes de la copropriété ?
Alors, effectivement, la loi du 10 juillet 1965 et son décret d'application du 17 mars 1967 autorisent chaque copropriétaire à pouvoir consulter les comptes de sa copropriété. Alors, c'est les comptes, les factures, les contrats, alors contrats d'entretien, assurance, les factures de travaux. Ça peut être aussi les relevés bancaires du compte du syndicat des copropriétaires, les salaires éventuels des gardiens ou des différents employés. Alors, selon la taille de la copropriété, hein, vous pouvez avoir les espaces verts, de la mécanique sur les portails. Enfin, il y a un certain nombre d'éléments que vous pouvez consulter, les appels de fonds et le budget provisionnel, les budgets provisionnels. En général, en fait, cette consultation doit pouvoir avoir lieu entre le moment où vous êtes convoqué à l'Assemblée générale et la tenue de cette Assemblée. Et effectivement, ça doit être en principe indiqué dans la lettre de convocation que ces comptes-là doivent être tenus à votre disposition pour que vous puissiez les consulter au minimum avant cette Assemblée. Donc après, il faut s'organiser éventuellement avec le syndic, par un courrier, par un mail, en visant effectivement l'article 18.1 de la loi de 1965 qui vous l'autorise, afin que tous ces éléments-là vous soient mis à votre disposition et que vous puissiez effectivement consulter tous ces éléments qui seront en principe évoqués dans le cadre des assemblées générales.
Donc ce sont des comptes accessibles qu'on peut consulter et vous des fois il y a des clients qui viennent avec les comptes pour vous dire est-ce que vous pouvez réanalyser ça pour
en principe c'est vous les consulter sur place. Après vous pouvez demander à en avoir des copies, mais c'est à vos frais. Et puis en général c'est énorme. Alors après il y en a une partie qui sont aussi communiquées dans le cadre des convocations qui vous sont remis avec un certain nombre de documents pour que vous puissiez effectivement en prendre connaissance si vous décidez d'aller en amont effectivement de l'Assemblée. Et puis après de toute façon vous y avez aussi après dans le cadre du délai de contestation.
Le fameux délai de 2 mois dont
exactement
on a parlé.
Sur lequel il faut être très vigilant. Et alors, effectivement, pour les gros syndics, les syndics professionnels, j'ai envie de dire, en principe, il y a une obligation aussi de les mettre en ligne via un site, via extranet, et qui doit être quand même suffisamment sécurisé pour chaque copropriétaire, effectivement.
Oui, parce que...
Alors, c'est moins dans les petites copropriétés, dans les gros, avec les grosses copropriétés avec des syndics professionnels, oui, il y a une obligation de mettre en place les consultations internet, en fait.
Oui, d'ailleurs, ce qui enlève un peu le sentiment d'opacité sur la gestion des comptes. Maintenant, on a accès à plein d'informations.
Mais il y a tellement de documents qu'au bout d'un moment, effectivement, il faut être quand même très vigilant, surtout, quoi.
Très bien. Bon, merci pour ces précisions. Une nouvelle question pour vous. Si mon bien est mis en vente dans le cadre d'une saisie immobilière, est-ce que je peux encore trouver un acheteur moi-même pour éviter la vente judiciaire ?
Alors oui, je vais rebondir un petit peu sur ce que mon associé a déjà expliqué effectivement tout à l'heure. Vous avez le commandement qui est délivré. Et ensuite, il y a cette première audience d'orientation qui est fixée. Et dans le cadre de cette audience, effectivement, vous avez la possibilité de demander un délai. Alors, ça peut pas être un délai dilatoire. Il faut quand même ramener un certain nombre d'éléments au magistrat pour qu'il puisse vérifier que cette demande de délai est justifiée. Donc, en général, c'est un mandat de vente. Ces éléments-là ou la preuve d'un compromis éventuellement signé si on est déjà sur cette étape-là, et on peut obtenir des délais. C'est toujours mieux que d'aller sur une saisie immobilière, parce que vous avez quand même encore la maîtrise du prix, puisque vous n'êtes pas sûr, dans le cadre de la saisie, que votre bien sera vendu au prix qu'il vaut. C'est toujours mieux, même pour soi, quand on a effectivement travaillé toute sa vie pour essayer de régler, de pouvoir repartir au même, quand même, avec un petit patrimoine. Et puis, ça permet de gérer un peu mieux le calendrier. Donc oui, vous avez toujours cette option-là. Ce délai peut être, en plus, comme l'a expliqué ma consœur tout à l'heure, prolongé, prorogé. sur présentation de justificatif à chaque fois, effectivement.
Oui, voilà, vous avez raison de le rappeler parce que...
C'est pas juste une demande comme ça. D'où l'idée de venir quand même accompagner, même si le justiciable, entre guillemets, peut le faire seul, c'est toujours mieux d'être accompagné.
Mais parce que quand ça concerne, effectivement, les demandes de délai, les clients pensent souvent qu'ils peuvent se débrouiller tout seuls. Mais c'est pas à gagner, les demandes de délai, et surtout dans ces contentieux
techniques.
Et en plus, c'est pas automatique. Vous avez raison de le rappeler. Merci beaucoup pour votre... réponse très claire. Maître Élodie Fortin-Leton, une nouvelle question pour vous dans votre domaine d'intervention. Mon propriétaire veut augmenter le loyer alors que le bail est toujours en cours. Est-ce qu'il a le droit de le faire et dans quel cas cette hausse est légale ?
Alors, un propriétaire ne peut augmenter le loyer d'un bail d'habitation en cours que dans des cas qui sont strictement encadrés par la loi et selon des modalités très précises. La révision du loyer en cours de bail, elle n'est possible que si vous avez une clause dans votre contrat de location qui le prévoit expressément. Cette clause, elle est dénommée clause de révision. Elle doit indiquer la périodicité, les modalités de la révision qui ne peuvent intervenir qu'une fois par an, à la date convenue ou à défaut à la date anniversaire du contrat, et la variation du loyer ne peut excéder la variation de l'indice de référence des loyers, IRL, qui sont publiés par l'INSEE. En dehors de cette révision annuelle, une augmentation du loyer ne peut être envisagée que lors du renouvellement du bail. Si le loyer est manifestement sous-évalué par rapport au loyer pratiqué dans le voisinage pour des logements comparables, ou si des travaux de performance énergétique ont été réalisés par le propriétaire bailleur. En zone tendue, on a également des règles spécifiques qui s'attachent à l'encadrement des loyers, qui limitent encore davantage les possibilités d'augmentation. Et en résumé, l'augmentation du loyer d'un bail d'habitation en cours, elle est strictement encadrée. Elle doit être prévue par une clause du bail, respecter l'indice de référence des loyers et en cas de renouvellement ou de loyer sous-évalué, suivre des plafonds et des modalités précises fixées par la loi ou le décret d'application.
Oui, donc oui, on fait pas ce qu'on veut.
Non,
c'est très
le propriétaire bailleur ne peut pas faire ce qu'il souhaite concernant le montant du loyer.
D'accord, très bien. Bah, merci beaucoup, c'est très clair et précis. Une nouvelle question pour vous, Maître Nelly Lecky, que je vais trouver immédiatement parce qu'elle est sous mes yeux, mais j'ai peut-être inversé le sens des questions. Nous avons un copropriétaire qui a transformé son garage en logement sans autorisation. Je crois que c'est pas bien. Est-ce que le syndicat des copropriétaires peut vraiment l'obliger à remettre les lieux en l'état ?
Alors, faut quand même rappeler que dans chaque copropriété, il y a ce qu'on appelle un règlement de copropriété. Et en général, ce règlement va préciser qu'un garage est destiné à garer des véhicules. Le garage n'est pas un logement, ce n'est pas un lieu d'habitation. Et donc, il est évident que lorsque on veut changer la destination d'un garage pour y faire un logement d'habitation, on contrevient au règlement de copropriété. Et bien évidemment,
c'est pas bien.
Le syndicat des copropriétaires va pouvoir demander la remise en état. Cette demande peut être faite dans un premier temps à l'amiable par le biais d'une mise en demeure, parce qu'on va constater que des travaux sont réalisés. On va demander aux copropriétaires concernés de stopper les travaux ou, à défaut d'exécution de sa part, on aura la possibilité de saisir le tribunal judiciaire pour qu'il soit ordonné une remise en état des lieux avec éventuellement des dommages et intérêts pour le trouble causé à la copropriété. On a un autre aspect aussi, c'est-à-dire que quand on fait de tels travaux, on est soumis à des règles d'urbanisme. Là, ce sont des travaux qui sont faits sans aucune autorisation, alors même que la nature de ces travaux impose en fait la demande d'une autorisation de la mairie en général. La mairie peut aussi agir contre ce copropriétaire qui aurait procédé à des travaux en violation des règles du plan local d'urbanisme applicable. Donc c'est très très risqué. Je précise que les changements de destination peuvent se pratiquer, donc ce n'est pas interdit, mais ce n'est pas de cette nature. Je prends l'exemple d'un immeuble dans lequel on a un appartement en rez-de-chaussée et que le propriétaire de cet appartement ait envie de le transformer en cabinet d'avocat, par exemple, ou toute autre activité qui ne soit pas contraire au règlement de copropriété. Il peut tout à fait demander à l'Assemblée générale des copropriétaires, déjà demander à ce que soit inscrit à l'ordre du jour le changement de destination. L'Assemblée générale va se tenir, les copropriétaires vont exprimer leur vote pour dire s'ils sont d'accord qu'on change la destination du local en question. Et là, on aura une décision de l'Assemblée générale qui va donc autoriser le copropriétaire à utiliser son local d'habitation non plus comme un lieu pour y loger, mais pour exercer son activité, soit d'avocat, soit de sophrologue. Enfin, voilà. Donc, il y a effectivement cette faculté-là. Pour autant, on ne pourra pas transformer un garage en lieu d'habitation. Parce que là, on est complètement dans la violation du règlement de copropriété applicable.
Oui, alors c'est vrai que quand on achète en copro, il y a des règles du jeu, il y a le règlement de copro et qu'on fait pas ce qu'on veut.
Exactement.
Comme quand on fait des travaux et qui touchent à la structure, on doit en informer.
C'est ça. En général, on ne fait pas tout à fait ce qu'on veut, voilà. Y compris même quand on se trouve dans des lotissements avec des maisons, il y a quand même des parties communes. Il y a parfois des cahiers des charges qui vont régir en fait les règles applicables dans le lotissement. Voilà. Et puis il y a des règles d'urbanisme qui s'appliquent. On ne peut pas vraiment faire ce qu'on veut. Même quand on est en maison et qu'on ait envie de changer son garage en habitation, on est soumis à des règles d'urbanisme. Donc on doit déposer un dossier de demande d'autorisation à sa mairie pour pouvoir être autorisé à réaliser ses travaux.
Merci pour ces précieux rappels. Il y a l'ordre public, il y a les règles de copro. Voilà, on ne fait pas ce qu'on veut, on est libre dans une certaine mesure. Merci pour ces rappels. Une nouvelle question pour vous, à laquelle nous répondrons après une nouvelle pause musicale. À tout de suite. Dear jealousy, you know every part of me, hiding where no one can see. I want you to leave. Dear jealousy, why are you smiling creepily? Your fingertips keep holding on, but your tricks won't work on me. Oh baby, I'm jealous of us. I'm jealous of everything that I know we could be, but never really seems enough. I'm jealous of everyone. Jealous of the man I used to be, and the man I could become. Of your face, of your lips, of your eyes. Jealous of your house and the car you drive. Jealous of your truth and I'm jealous of lies. I'm jealous. Jealous of the ground beneath my feet. Jealous of your mouth and the air we breathe. Jealous of the way that you look at me. I'm jealous. It's coming out to get us, get us. You better run away while it let us. Cause like it or not, every day we get a little better at jealousy. We gon' want to let go. Problem is that it's wrong and every single person, even you, even me, is jealousy. Dear jealousy, when did you move in with me? This bed wasn't made for three. It's time for you to leave. Oh baby, I'm jealous of us. I'm jealous of everything that I know we could be, but never really seems enough. I'm jealous of everyone. Jealous of the man I used to be, and the man I could become. I'm jealous of your face, of your lips, of your eyes. Jealous of your house and the car you drive. Jealous of your truth and I'm jealous of lies. I'm jealous. Jealous of the ground beneath my feet. Jealous of your mouth and the air we breathe. Jealous of the way that you look at me. I'm jealous. It's coming out to get us, get us. You better run away while it let us. Cause like it or not, every day we get a little better at jealousy. We gon' want to let it come, amen. Only problem is that it's wrong and every single person, even you, even me, is jealousy. Jealousy, bring the music back to me. I can't even write a song if you're standing over me. Yeah, jealousy. Jealousy, I'll take the good times with the rough. I don't need to be the richest, I know enough is enough. Jealousy, stop confusing me. I am sick of seeing everything in different shades of green. Jealousy, it took a while for me to see. I thought I was the one who's jealous, but you're jealous of me. Run away while it
can we get a little better at jealousy? We got one thing in common. Only problem is that it's wrong, yeah. And every single destiny that you live with me is jealousy. It's coming out to get us, get us. We better run away while it let us. Cause like it or not, every day we get a little better at jealousy.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM et en DAB+.
Vous écoutez l'émission Tous les droits sur IDFM Radio. Merci de nous suivre sur le 98FM. Nous poursuivons notre émission consacrée aujourd'hui aux droits immobiliers. Nelly Lecky, nous avons une nouvelle question pour vous. J'ai entendu dire que même après la saisie d'un bien, on peut faire annuler la vente en justice dans certains cas. Est-ce vrai et dans quelle situation?
Alors, en général, il est très 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 difficile de faire annuler la saisie lorsqu'elle a été ordonnée. Donc ça reste en fait une mesure très exceptionnelle. En général, les contestations sont soulevées avant la vente aux enchères. C'est d'ailleurs pour ça que bien souvent, les avocats vont prendre des écritures pour soulever toutes les contestations, vérifier toutes les irrégularités. Et en général, elles sont soulevées bien avant la mise en vente du bien. Mais il peut arriver que qu'on relève des irrégularités a posteriori. Et c'est uniquement dans ces cas-là que on peut demander l'annulation de la saisie qui a été ordonnée. Alors, je prends le cas, par exemple, d'un défaut de validité du titre exécutoire. Le titre exécutoire, c'est soit la décision de justice, soit ça va être le prêt bancaire, parce que il va être revêtu de la formule exécutoire, puisque passant devant le notaire, et ainsi de suite. Si on constate qu'il y avait, par exemple, une prescription du titre, c'est-à-dire que ce titre, en fait, ne pouvait plus produire ses effets, à ce moment, effectivement, on peut demander l'annulation de la procédure de saisie immobilière. Mais ça reste très exceptionnel, c'est très rare, en fait, parce qu'il aurait fallu, dans ce cas de figure, que ça ait échappé à tout le monde,
oui, c'est ce que j'ai
à la
dire,
fois hein. Aux avocats, aux juges, oui. Et puis qu'on se retrouve dans ce cas de figure. Il peut également arriver que... par exemple, il y ait appel, c'est-à-dire que on a la décision de qui ordonne la mise en vente aux enchères, puis on fait appel. Si on n'attend pas le retour de la cour d'appel, mais je vais quand même rassurer mes interlocuteurs en disant que en général, un appel ça va plutôt vite. Alors, c'est vraiment l'hypothèse où il y aurait un arrêt d'appel qui viendrait infirmer le jugement de première instance, alors que la saisie a été maintenue, évidemment qu'on pourra obtenir l'annulation dans ce cas de figure. Mais là encore, c'est vraiment très rare.
D'accord.
Il y a un dernier cas qui concerne en fait les manœuvres frauduleuses. Si on a recours à des manœuvres dolosives, hein, c'est-à-dire qu'on a un créancier, par exemple, qui s'entend et donc qui se met en accord avec un potentiel acquéreur qui devient donc adjudicataire pour pouvoir acquérir le prix à vide prix. Mais là encore, il faut démontrer l'existence des manœuvres frauduleuses et dans ces cas, une action en nullité peut être engagée et là, on dispose d'un délai de 5 ans. Un délai de 5 ans pour agir, alors que dans les premières hypothèses que j'ai évoquées, on n'a qu'un délai de 15 jours pour pouvoir agir, donc c'est un délai qui est plutôt rapide. Il est assez rare hein, de se retrouver dans l'hypothèse d'annulation pour manœuvre dolosive. Je précise que le dol est prévu par l'article 1130 du Code civil, mais il doit être prouvé pour pouvoir obtenir la nullité de la saisie immobilière. Donc voilà, ce n'est pas simple. En général, toutes les actions en nullité sont soulevées avant le jugement d'adjudication lorsque le travail est fait correctement par tout le monde.
Ah, c'est vrai, mais c'est très, très, très rare.
C'est très, 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 très rare.
Ok. Et donc, là, on a parlé, dans le cadre de cette émission, des débiteurs, mais est-ce que vous assistez aussi, vous, de votre côté, des particuliers qui voudraient acquérir dans le cadre de vente par adjudication?
Ah oui, bien sûr.
Vous portez en chaire, vous?
Tout à fait, oui, on porte en chaire. Bon, en général, on est saisi un peu dans l'urgence. Bon, on apprécie quand même que les gens viennent nous voir au moins une semaine avant la date de l'audience d'adjudication. Mais on reçoit des personnes parfois 48 heures en amont, mais c'est plutôt rare. En général, on les invite. J'en profite pour le dire, n'attendez pas la dernière minute pour aller voir votre avocat si vous voulez justement vous porter acquéreur dans le cadre d'une vente aux enchères, parce qu'il y a quand même un préalable obligatoire à vérifier par l'avocat, y compris concernant la capacité financière et le fameux chèque de banque. Enfin voilà, donc nous intervenons effectivement, nous accompagnons nos clients dans le cadre des enchères.
Parce que tous les confrères ne le font pas. Alors, il faut un avocat inscrit.
Il faut un avocat inscrit au barreau du Val d'Oise. Donc, en fait, si ça se passe devant le tribunal judiciaire de Pontoise, il faut impérativement avoir un avocat inscrit au barreau du Val d'Oise. Et c'est pareil pour tout le monde.
Et il y en a très peu qui le font, parce que c'est quand même une matière extrêmement spécifique.
Oui, après, il y a un groupe de confrères qui le...
Oui, voilà, parce qu'on voit toujours les mêmes dans cette salle d'audience.
C'est en général les mêmes.
C'est un petit précaré où on est un petit peu... Ils sont un peu entre eux. Et puis quand il y a un petit nouveau qui vient porter...
Les enchères,
on leur dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais c'est pas... Voilà, c'est ça.
On dit, mais qu'est-il là? Qui est-il?
Mais qui... Oui, qui, voilà. Mais donc, vous le faites. Voilà, nous c'est important faisons. Aussi Tout que les fait. Auditeurs sachent voilà, les conditions.
Nous le faisons, sauf quand on nous saisit la veille pour le lendemain.
Oui, hormis cette extrême urgence. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Maître Élodie Fortin-Leton, une dernière question pour vous en droit locatif. Je suis locataire et je viens d'apprendre que l'immeuble a été vendu à un nouveau propriétaire. Est-ce que mon bail est toujours valable ou dois-je signer un nouveau contrat ?
Lorsqu'un logement loué est vendu à un nouveau propriétaire, le bail d'habitation en cours n'est pas remis en cause par cette vente. En fait, le contrat de location, il va continuer à produire tous ses effets entre le locataire et le nouveau propriétaire sans qu'il soit nécessaire de signer un nouveau contrat de location. Le nouveau propriétaire, il va être tenu de respecter les droits du locataire et de reprendre le bail dans les mêmes conditions que l'ancien propriétaire. Le locataire doit simplement être informé du changement du bailleur, notamment de son identité et de ses coordonnées bancaires. Surtout pour pouvoir s'acquitter valablement du paiement du loyer entre ses mains et ne pas se mettre en défaut de paiement. Donc, en conséquence, le locataire n'a aucune obligation de signer un nouveau contrat de bail après la vente de l'immeuble. Il peut régulariser un avenant concernant uniquement l'identité du bailleur. Le bail initial, il reste valable, opposable au nouveau propriétaire qui va tout simplement se substituer à l'ancien bailleur pour l'ensemble des droits et des obligations qui découlent du contrat de location.
D'accord, donc pas de changement significatif et substantiel hormis les coordonnées du propriétaire.
C'est ça, l'information doit nécessairement par contre être portée à la connaissance du locataire.
Oui, bon, en général, comme le propriétaire, il veut son loyer, il n'oublie pas de se manifester, d'envoyer son RIB.
Mais bon, c'est tout à fait ça.
C'est toujours bien de le rappeler. Merci beaucoup pour votre réponse à cette nouvelle question. Maître Jennifer Elkabas, nous avons encore deux questions pour vous. Êtes-vous prête?
Je suis prête.
Acceptez-vous de répondre à mes questions?
Évidemment.
Alors, première question. L'Assemblée générale a voté des travaux de ravalement, mais je ne peux pas payer la somme demandée en une seule fois. Est-ce que je peux demander un étalement ou refuser le paiement?
Alors, refuser le paiement, non, puisque sur le principe, si l'Assemblée générale a valablement voté les travaux, donc après avec les délais de contestation, etc., mais sur le principe, si c'est valablement voté, vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas en refuser le paiement et vous devez, quoi qu'il arrive, vous en acquitter. Alors après, selon effectivement le montant des travaux, on n'a pas tous des sommes d'argent disponibles sur les comptes en banque pour faire les gros travaux qui peuvent être imposés par la remise en état d'une copropriété. Et donc, vous avez toujours la possibilité de demander un échelonnement. C'est une possibilité et c'est pas une obligation non plus pour le syndic d'y faire droit. Donc, vous le tentez et après, effectivement, on décide ou pas, selon le montant qui est fixé, de l'accepter, enfin le syndic ou le syndicat des copropriétaires, de l'accepter. À défaut, S'il n'y a pas d'accord, ben vous pouvez être contraint, même si c'est compliqué, d'avoir effectivement à souscrire des prêts, après à charge pour vous d'éventuellement faire jouer des différentes aides que vous pourriez obtenir selon les travaux que vous envisagez. Mais sur le principe, vous pouvez même être amené à souscrire des prêts. À défaut, à partir du moment où c'est voté, si vous ne le faites pas, ben vous prenez le risque d'une... première mise en demeure et ensuite d'une procédure judiciaire qui, bah, effectivement, peut aller sur le simple recouvrement de charges et à défaut après sur une procédure de saisie puisque effectivement ces charges sont quoi qu'il arrive dues. Donc le mieux c'est toujours d'anticiper avant d'attendre effectivement tout ce qui est mise en demeure parce que ce sont des frais aussi qui vont s'ajouter ensuite aux demandes qu'on vous fera. Donc toujours se rapprocher tout de suite de la personne compétente pour solliciter ce délai et puis anticiper, quoi.
Oui, parce qu'on oublie de le rappeler, mais quand on ne paye pas, il y a des frais de contentieux, des frais de mise en demeure qu'on peut vous réclamer par la suite.
Voilà, effectivement.
Bon, voilà, tout ça.
Donc l'idée, c'est de limiter. Puis alors après, voilà, une copro, selon la taille qu'elle a, il y a quand même une proximité. L'idée, c'est que ben, quand vous ne payez pas, c'est la copro qui est en difficulté. Donc c'est après, voilà, c'est un ensemble qui doit fonctionner de manière transparente et également bienveillante, en tout cas quand c'est possible. Donc quand on anticipe, c'est déjà un petit peu mieux.
Très bien, merci pour cette réponse. Une dernière question pour vous, avant que nous clôturions cette émission consacrée au droit immobilier. Quand un bien est vendu aux enchères après une saisie, que devient la dette si le prix de vente ne couvre pas tout ce que je dois à la banque ?
Ben, vous restez redevable de la dette, puisque effectivement, en principe, la somme que vous devez, c'est que soit elle découle de charges impayées, donc c'est un syndic, soit ça peut être aussi un crédit. Donc c'est des sommes que vous avez, sur le principe, accepté de payer. Donc personne ne les payera effectivement pour vous si la vente, dans le cadre d'une saisie immobilière, ne permet pas de couvrir les frais. Donc, effectivement, le créancier pourra toujours, donc soit à nouveau en amiable, vous redemander un échéancier sur le sol, soit lui, il pourra à nouveau, ce couvert de ma consoeur, mettre en place d'autres mesures d'exécution que la saisie immobilière, des saisies sur salaire, d'autres choses, pour que vous puissiez régler définitivement la dette. Donc, après, si vous êtes vraiment des grosses difficultés et que c'est impossible, vous avez la dernière option qui est de faire éventuellement une commission de surendettement... ou ce genre de choses pour pouvoir effectivement soit désintéresser de manière échelonnée, soit dans certains cas obtenir un effacement de la dette.
Oui,
et à contrario, à l'inverse, si le prix est supérieur, cette fois-ci, vous pouvez vous acquitter de la dette principale et rester avec votre disponible.
Très bien. Nelly Lecky, vous vouliez rajouter quelque chose ?
Alors, je voulais juste rajouter qu'effectivement, là, on a parlé du sort de la dette, mais on n'a pas évoqué l'expulsion. Donc, il faut quand même préciser que le jugement d'adjudication vaut titre d'expulsion.
Oui, c'est vrai.
Et donc, le propriétaire qui est saisi doit quitter les lieux. Il doit quitter les lieux une fois le jugement d'adjudication intervenu. Alors, en général, quand on est créancier poursuivant et que le bien est vendu aux enchères, quand on est adjudicataire, pardon, on va souvent faire face au propriétaire, donc au débiteur saisi, qui lui va saisir le juge de l'exécution pour obtenir des délais pour quitter les lieux. Ça va souvent tenir à des conditions tenant à la famille, le fait d'avoir des enfants, la trêve hivernale. Donc en fait, l'adjudicataire va avoir une belle décision qui va le désigner adjudicataire. Pour autant, il ne va pas pouvoir rentrer en possession des lieux dans l'immédiat. Parfois, on va se heurter au propriétaire qui va demander des délais auprès du juge de l'exécution. On va parfois aussi se heurter au concours de la force publique, qu'on ne va pas toujours avoir de manière automatique, parce qu'en fonction de la composition de la famille, en fonction de l'enquête sociale qui est faite, le préfet parfois peut ne pas ordonner le concours de la force publique. Moi, il m'est arrivé d'attendre 2 ans dans un dossier pour pouvoir entrer en possession du bien pour mon client.
Oui, je comprends. Voilà.
Donc, ce n'est pas automatique.
C'est pas toujours immédiat, quoi.
C'est ça.
Le départ des.
C'est-à-dire qu'en fait, on a le jugement, on notifie, les délais d'appel sont écoulés, on n'a pas les clés tout de suite.
D'accord.
Voilà, il faut avoir en tête ce délai-là. Et je le dis parce que parfois, quand on se porte adjudicataire, on va aussi sur des crédits immobiliers qui, eux, vont commencer à courir.
Et oui.
Parce qu'en fait, l'argent n'est pas forcément c'est disponible vrai. Compte tenu du coût. Donc, il faut prévoir quand même un certain temps.
Oui,
c'est-à-dire que parfois, l'adjudicateur peut lui-même se retrouver
en difficulté
à son tour parce qu'il n'aura pas anticipé ce délai-là. Il faut vraiment faire attention à ça et notamment à ses finances lorsqu'on se lance.
Il faut être très bien conseillé. Et on en revient toujours au même. La boucle est bouclée. C'est l'intérêt d'avoir recours à des avocats qui maîtrisent leur domaine d'intervention, qui se forment chaque année, qui se tiennent à jour de la législation, des décisions, des pratiques, des juridictions. Merci à toutes les trois d'avoir été mes invités pour ce nouveau numéro de Tous les droits. Maître Élodie Fortin, un dernier mot pour la fin.
Ce fut un plaisir d'être avec vous.
Voilà, j'aime bien ce genre de mots pour la fin. Merci à vous, votre cabinet est situé à Enghien-les-Bains. Vous intervenez en droit immobilier et droit à des procédures d'exécution. C'est un plus quand on a des beaux jugements et qu'on ne sait pas comment les exécuter. Merci beaucoup à vous, Maître Jennifer Elkabbas. Merci beaucoup, ça s'est bien passé cette émission.
C'était super, merci pour votre accueil.
Voilà, vous avez géré cette émission d'une main de maître. Merci pour la qualité de votre intervention et votre disponibilité. Maître Nelly Lecky.
Eh ben, c'était très intéressant. Merci pour votre accueil chaleureux. Et c'était un plaisir de partager ce moment avec vous.
Merci beaucoup. Merci de votre présence au micro d'IDFM Radio. Vous pouvez retrouver les noms de mes invités sur les réseaux sociaux et aller consulter leur site internet pour découvrir leur parcours et puis leur activité. Je rappelle que l'Ordre des avocats dispose d'un site internet avec un annuaire où vous pouvez trouver des avocats du barreau en fonction de leur localisation, de leur domaine de compétence ou même de leur nom. Donc n'hésitez pas à consulter cet annuaire. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci Francky pour la technique. Cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Son podcast sera disponible sur le site de la radio idfm98.fr. Le prochain numéro de l'émission Tous les droits, ce sera le 1er décembre où l'émission sera consacrée cette fois aux droits des mineurs et je vous invite à adresser vos questions sur ce thème à l'adresse tldidfm@gmail.com. À très vite pour un nouveau numéro de Tous les droits sur IDFM Radio. Belle journée et bonne semaine à tous. IDFM Radio, par nous, pour nous. Tous les
Fighting those demons inside, I will wait for you, I will wait for you. Old friend of mine, see you walking down the road, but you don't have to walk alone. No need to hide, I know it's hard to let it go. It's even harder if you don't. Oh, oh, it gets better when you reach the other side. It's hard to see it, but I promise there's a light. I see you fighting those demons inside. I will wait for you, I will wait for you. Don't be afraid, you can't push me away. I will wait for you, I will wait for you. Till the light in your eyes reappears, I'll be here by your side. I see you fighting. Tide. Try to swim against the waves. Don't let your hope be pulled away. I know what it's like. I've seen dark and lonely days. I know you'll make it out okay. Oh, oh, it gets better when you reach the other side. Oh, oh, yes, I see it, but I promise there's a light. Fighting those demons inside, I will wait for you, I will wait for you. Don't be afraid, you can't push me away. I will wait for you, I will wait for you. Till the light in your eyes reappears, I'll be here by your side. I see you fighting those demons inside, I will wait for you, I will wait. In your head ever drown you out. Don't let the weight of the world ever bring you down. Keep fighting your demons, I know you can make it out. I hope that one day you can see how I see. Fighting those demons inside, I will wait for you, I will wait for you. Don't be afraid, you can't push me afraid, you can't push me away. I will wait for you, I will wait for you. Till the light in your eyes reappears, I'll be here by your side. I see you fighting those demons inside, I will wait for you.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
Retrouvez la matinale du lundi au vendredi de 7h à 9h30. Toute l'actu locale, la météo, l'horoscope, l'album de la semaine, des cadeaux à gagner et l'invité du jour avec Christophe sur IDFM Radio.